24 heures en temps universel, 6 heures à Rome. Une nouvelle demi-heure d'information avec vous, Marion Kazanov, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Et ça démarre avec le journal. À la une ce matin, les prières et le recueillement des catholiques du monde entier.
Au lendemain de la mort du pape François, à 88 ans, des milliers de fidèles se sont retrouvés place Saint-Pierre au Vatican. Hommage partout sur la planète pour le souverain pontife qui, pour beaucoup, aura été le pape des pauvres et ouvert la voie à une église plus ouverte. Le Vatican s'organise déjà pour la suite, les funérailles et surtout l'organisation du conclave pour désigner le successeur du pape argentin. Dans ce journal, également le président russe et son tour de vis contre ses opposants avec une série de lois qui musellent un peu plus les voix dissidentes. Et puis on parlera aussi des 50 ans de la CEDEAO, l'organisation économique ouest-africaine, avec ses succès et ses rendez-vous manqués. La place Saint-Pierre au Vatican, jonchée de bougies, de fleurs, les hommages des catholiques au pape François après sa mort hier matin à 88 ans. Il avait fait une dernière apparition publique dimanche lors de sa bénédiction Urbi et Orbi pour Pâques. Et aussitôt après sa mort, des milliers de personnes sont venues donc se recueillir au Vatican, place Saint-Pierre de Rome. Reportage d'Éric Sénanc.
La prière des fidèles de Rome pour un dernier adieu à François, mais aussi de nombreux pèlerins venus dans la ville éternelle pour célébrer Pâques. Près de 12 000 personnes sont venues réciter un chapelet pour le repos de l'âme du pape défunt. Présent près de l'obélisque au centre de la place, Miguel Angel Aguilar, un prêtre mexicain qui tient dans ses mains une édition spéciale de l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, à l'effigie du pape argentin.
Lui est le pape de la miséricorde.
C'est le pape de la miséricorde. Il a été une inspiration pour moi, pour ma théologie. L'option pour les pauvres, la miséricorde pour le monde entier. Il a répété une phrase très souvent. Il y a une place pour tout le monde dans l'église.
Après la prière, une veillée s'est improvisée sur la place, animée par un mouvement de jeunes catholiques italiens, parmi lesquels figure Chiara, 16 ans.
C'était important d'être là, être présent avec lui qui a toujours été à nos côtés, dans nos paroisses. Il a toujours été présent pour tous les peuples du monde. Et même si nous sommes là et lui là-haut, on vient lui dire qu'il n'est pas seul.
Joie, ferveur et recueillement, des sentiments qui devraient rythmer encore les prochains jours à Rome, en attendant la date des funérailles de François. Une date qui pourrait être décidée dès ce mardi matin après la première congrégation générale des cardinaux. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Les catholiques à travers le monde prient donc pour le pape argentin. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés à l'église pour une veillée, des prières. L'Argentine, pays d'origine du pape François, va observer 7 jours de deuil national. Pour beaucoup, il aura incarné une église moins conservatrice, plus ouverte notamment pour l'accueil et le respect des migrants. C'est ce que retiennent ces Américains rencontrés par Edouard May dans l'Indiana, un état du Midwest.
Dans le centre-ville, Daikon profite d'un encas assis sur un banc, très triste du décès du pape.
C'était juste un bon pape, il était un peu différent des autres. Je pense que c'était mon pape préféré.
Lorraine, lui, s'interroge sur l'avenir de l'Église catholique, alors que le pape François, dit-il, a apporté des idées plus inclusives.
On est face à plusieurs voies possibles pour voir où va aller l'Église, si elle va continuer cette version plus inclusive du catholicisme ou changer.
Des interrogations partagées par Meg, qui salue les politiques du pape.
C'est très triste. C'était un pape progressiste et il avait beaucoup de très bonnes idées. Qui sait ce qui va se passer maintenant? Comment sera le prochain pape? Il y a des chances que l'on retourne aux idées plus conservatrices.
Meg met en avant les efforts du pape en soutien des migrants, alors qu'elle regrette que peu de personnes s'en préoccupent aujourd'hui. Edouard May, Fort Wayne dans l'Indiana, RFI.
Le souverain pontife avait souvent critiqué la politique anti-migrant de Donald Trump. Le président américain, hier, a réagi à la mort du pape. Il a salué un homme bon, a fait mettre les drapeaux en berne dans tout le pays et affirme qu'il se rendra aux obsèques du pape François. Parmi les autres réactions internationales, le président russe, Vladimir Poutine, a salué un dirigeant sage, un défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Un pape qui a prié pour la paix en Ukraine retient de son côté Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Son engagement pour la paix, c'est aussi ce que retient Félix Tshisekedi en RDC ou encore le président indonésien Prabowo Subianto. Le pape avait réservé l'un de ses derniers voyages en Asie du Sud-Est, dont en Indonésie, plus grand pays musulman du monde. Il avait fait du dialogue interreligieux l'une de ses priorités. Et désormais, le Vatican s'organise pour la suite. La dépouille du pape François devrait être exposée aux fidèles dans la basilique Saint-Pierre de Rome dès demain. Il faut aussi préparer ses funérailles, ainsi que l'organisation du conclave. Conclave qui désignera un nouveau souverain pontife. Les explications avec Véronique Guémard.
Le doyen du collège cardinalis, l'italien Giovanni Battista Re, qui a 91 ans, a déjà convoqué les cardinaux du monde entier. Ils se réunissent dès ce mardi, tous les jours. On appelle cela les congrégations générales, pour définir le déroulement des 9 jours qui suivent la mort du pape et décider notamment du jour des obsèques du souverain pontife, dont la dépouille devrait être exposée à partir de mercredi à la basilique Saint-Pierre et qui sera inhumée à la basilique Sainte-Marie-Majeure, selon le souhait du pape François. Ces congrégations générales comprennent l'ensemble des 252 cardinaux dans le monde. Ces cardinaux organisent aussi les détails du prochain conclave qui se tiendra entre 15 et 20 jours suivant la mort du pape. Ces réunions quotidiennes permettent aux cardinaux de mieux se connaître. Chacun présente sa vision pour le prochain pontificat. Lors du conclave, seuls les quelques 135 cardinaux de moins de 80 ans pourront entrer dans la chapelle Sixtine et procéder au vote pour choisir le futur pape.
Véronique Guémard. On revient largement ce matin sur la mort du pape François à 88 ans, notamment dans une édition spéciale dès 6h, temps universel avec Andréane Mellaré, nos invités ainsi que nos reporters à Rome. L'Ukraine espère une nouvelle trêve avec la Russie. Après une trêve pascale qui n'en a pas vraiment été une puisque les combats n'ont pas cessé ce week-end, les frappes ont repris de plus belle. Le président ukrainien a dit hier attendre une réponse claire de Moscou sur un nouveau cessez-le-feu. Vladimir Poutine au Kremlin est pour l'instant frileux quant à la proposition ukrainienne sur une trêve concernant les sites énergétiques. Le président russe qui resserre de son côté un peu plus son étau autour des voix dissidentes dans le pays. Il a promulgué hier une nouvelle série de lois en ce sens, Anis El-Jabri.
C'est à la fois un nouveau durcissement, encore un, et un élargissement de certaines lois existantes. Le discrédit contre l'armée russe et les appels aux sanctions étaient réprimés depuis mars 2022, mais ces deux infractions étaient jusque-là sanctionnées essentiellement par des amendes. Désormais, elles relèvent du pénal. Interdiction toute nouvelle, cette fois, je cite, « aider à mettre en œuvre les décisions d'organisations internationales dont Moscou ne fait pas partie. Cela peut en inclure beaucoup et notamment la Cour pénale internationale. Basée à La Haye, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en 2023. Enfin, les agents de l'étranger sont encore visés. Ce statut voté en 2012 fait l'objet ces derniers mois de constantes nouvelles contraintes et obligations. Cette fois, il s'agit de l'interdiction de siéger au conseil d'administration d'entreprises publiques. Ce statut doit être signalé partout, sociaux y compris. En Russie, cette liste ajournée en général le vendredi soir comprend désormais 1 millier de personnes et d'organisations, musiciens, écrivains et journalistes réputés notamment. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
RFI, 4h08, en temps universel. La CEDEAO commence à célébrer ses 50 ans aujourd'hui. Les chefs d'État des 12 pays membres de l'organisation ouest-africaine se retrouvent à Accra, au Ghana. Et ce sera l'occasion de faire le point après le départ fracassant du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui eux-mêmes ont formé une autre alliance, l'AES. Si au départ, la CEDEAO devait avant tout avoir un rôle économique, qu'a-t-elle permis justement dans ce domaine? Alexis Bédu, il y a bien eu des avancées, mais certains objectifs aussi n'ont pas été remplis.
Parmi les succès, on peut citer la libre circulation des personnes et des biens avec la carte d'identité CEDEAO. Pas besoin de carte de séjour pour accéder à tous les emplois hors emploi public dans les pays de la région. C'est la grande réussite selon le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kane, qui cite également la taxe communautaire permettant une harmonisation des droits de douane. Plus mitigé, les projets d'infrastructure avec des corridors de transport, seul celui en entre Abidjan et Lagos est une réalité. Les autres réseaux routiers ne sont pas à la hauteur des promesses. On en arrive aux échecs. Le commerce intra-régional stagne à moins de 15% du total des exportations. Chaque pays continue de mener sa barque seul. Les économies se sont révélées peu complémentaires et la monnaie unique, l'écho, a été plusieurs fois annoncée mais toujours reportée. Alors, les disparités de ressources entre les pays, le manque de leadership, le Nigeria qui devait être la locomotive de la CEDEAO reste embourbé dans des problèmes politiques, économiques et sécuritaires, les crises à répétition, dont la dernière en date reste la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso, voilà un enchevêtrement qui a empêché la CEDEAO d'atteindre ses ambitions de 1975.
Alexis Bédu du service économie de RFI. Plus de 3 milliards d'euros pour la reconstruction de Mayotte, c'est ce que promet Emmanuel Macron, le président français, en visite sur l'archipel de l'océan Indien, 4 mois après le dévastateur cyclone Chido. Ce projet de loi, qui prévoit aussi un durcissement des conditions d'immigration, sera soumis au Sénat en mai, puis sera examiné en juin à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron poursuit sa visite dans l'océan Indien. Il est aujourd'hui à La Réunion, département français touché par une épidémie de chikungunya. Il se rendra ensuite demain à Madagascar, puis sur l'île Maurice, vendredi. En France, la suite du procès Le Squarnec. Cet ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 enfants entre 1989 et 2014. L'un des enjeux est de comprendre comment cet homme a pu sévir 25 ans à l'hôpital sans être dénoncé et mis à pied. Cette semaine, ce sont les personnes qui ont donné l'alerte qui sont appelées à témoigner au tribunal de Vannes dans l'Ouest, et dans le même temps, associations et syndicats ont prévu de manifester pour dénoncer un système qui, selon eux, protège les prédateurs sexuels. Baptiste Coulon.
Ils savaient, mais n'ont rien fait. À l'hôpital de Quimperlé et à celui de Jonzac, les directions étaient informées d'une condamnation de Joël Le Squarnec en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, mais le chirurgien a continué à exercer. La direction d'un hôpital peut suspendre immédiatement un praticien, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles et souvent difficiles à justifier dans le cas de violences sexuelles, si bien qu'une seule autorité a réellement cette compétence.
C'est le ministre, en fait, qui a ce pouvoir. C'est complètement inadapté.
Alors plus de pouvoir et moins de conditions pour les directions d'hôpitaux, c'est ce que demande Laura Morin de l'association L'Enfant Bleu.
C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui peuvent constater aussi des choses qui posent problème. Et puis il y a cette question aussi de pouvoir aller vite. Le temps joue contre les victimes.
Le temps et le silence. Les viols et agressions sur des enfants à l'hôpital demeurent un impensé des violences sexuelles, estime Laura Morin, qui souhaite contraindre davantage les professionnels de santé à signaler ces comportements.
L'intérêt de l'enfant doit prioriser sur, effectivement, la loyauté qu'on peut avoir entre confrères. C'est pas parce que c'est un confrère, c'est pas parce que c'est quelqu'un qu'on connaît qu'on doit taire ses agissements.
La mesure, dit-elle, serait un premier pas pour briser le tabou des violences sexuelles subies par les enfants.
Baptiste Coulon. Aux États-Unis, le bras de fer entre Donald Trump et les universités se poursuit. Harvard a décidé d'entamer des poursuites contre l'administration Trump pour protester contre le gel de ses subventions. Le président américain avait décidé de les suspendre, accusant cette prestigieuse fac de laisser prospérer l'antisémitisme dans le campus, dans le contexte de la guerre à Gaza. Les subventions fédérales pour Harvard s'élèvent aujourd'hui à 2,2 milliards de dollars. En basket, à présent, la phase finale de l'Euroleague, la plus prestigieuse compétition européenne, avec le début ce soir des quarts de finale. Parmi les affiches au programme, Paris contre Istanbul. Une surprise pour le club parisien d'être arrivé si loin dans le tournoi, Babacar Diarra.
Jusqu'ici, la chasse des Parisiens a été prolifique. Le club de la Porte de la Chapelle a accroché à son tableau des cadors du continent, dont les deux clubs athéniens, le Panathinaikos et l'Olympiakos, ou encore le club le plus sacré en Euroleague, le Real Madrid, battu lors d'un barrage pour les quarts. Des exploits successifs qui ont donné de l'appétit aux coéquipiers du meneur américain TJ Shorts, nommé parmi les 3 meilleurs joueurs de la saison. Mais faire des coups ne suffit plus à l'orée des quarts de finale disputés au meilleur des 5 rencontres face au Fenerbahçe Istanbul, seul demi-finaliste de la saison dernière, que Paris n'a pas pu dompter. Fin mars, le coup n'était pas passé loin en terre turque, avec une défaite d'un point subie sur un panier au buzzer, et l'effectif plus dense d'Istanbouliotes, à la masse salariale presque 3 fois supérieure à celle de Paris, pourrait amplifier la différence entre les deux équipes, car après avoir déjà disputé 65 matchs en 7 mois, ce Paris boulimique s'est aussi calé une finale de Coupe de France à disputer samedi, après les 2 premiers rendez-vous de son quart européen. Choisir entre les compétitions, ce serait renoncer, soit tout sauf l'ADN du Paris Basketball.
Paris et Istanbul s'affronteront au meilleur des trois matchs. Le premier, c'est ce soir en Turquie, à partir de 19h45, heure de Paris. Pour l'heure, il est 6h14 à Paris, 4h14 en temps universel. On reste ensemble encore une quinzaine de minutes avant le retour de l'actualité africaine sur RFI.
RFI, toute l'actualité,
Marion Kazanov.
Avec d'abord un aperçu du grand reportage. Aujourd'hui, nous sommes en Birmanie. Témoignage rare dans ce pays verrouillé où les journalistes ne sont pas les bienvenus. Notre journaliste a pu se rendre en zone rebelle, ces zones qui se battent contre la junte au pouvoir. Notre invité culture ce matin est Serge Lehmann pour son roman graphique Les Navigateurs. Le conseil santé ce matin sur les caries et les rages de dents. Et puis on terminera comme tous les jours par un tour dans notre playlist musicale du mois. Il y a près d'un mois, la terre a tremblé en Birmanie, un séisme dévastateur de magnitude 7,7 qui a fait des milliers de morts dans un pays déjà en proie à la guerre civile depuis le coup d'état de février 2021. Plus de 3,6 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit. L'aide humanitaire a bien du mal à opérer dans le pays, dans certaines zones, notamment celles tenues par les groupes rebelles. Les habitants sont complètement livrés à eux-mêmes. Les journalistes ne sont pas les bienvenus pour documenter ce qu'il se passe. Esther Lebleu a réussi à se rendre sur place en zone rebelle. On écoute un extrait de ce grand reportage. Séisme en Birmanie, un peuple entre dévastation et résilience.
En centre-ville de Mandalay, les séquelles visibles du tremblement de terre donnent une idée de la force du choc. Immeubles effondrés, enfoncés dans le sol. Au monastère Chemin, une quinzaine de moines bouddhistes s'affairent sur les ruines d'un dortoir écroulé. Les bras nus et tatoués sous leur toge marron, ils déblaient, déplacent des tas de gravats à l'aide d'une brouette. Une cinquantaine de jeunes moines, encore étudiants, sont morts dans les décombres. À quelques pas de là, les ruines du Sky Villa Condominium, un immeuble de 12 étages avec piscine, toit terrasse, un symbole de la modernisation récente de Mandalay. Une centaine de personnes y ont été ensevelies. Sur l'immense tas de ruines qui forment comme une colline, les équipes de secouristes birmans s'activent. Certains sont des professionnels, mais beaucoup sont de simples volontaires, amis, voisins du quartier. Ils travaillent sans équipement, se partagent quelques paires de gants et de bottes. Beaucoup sont en sandales dans les décombres. Il fait près de 40 degrés. Autour du site des recherches, l'odeur de décomposition des corps prend à la gorge. Les familles, équipées de masques chirurgicaux, attendent anxieusement. Une semaine après la catastrophe, il ne s'agit plus de retrouver des survivants, mais de récupérer le plus de corps possible avant l'arrêt des recherches. Un jeune homme, vêtu malgré la chaleur d'un costard noir de deuil, raconte.
Ma sœur était en train de nager dans la piscine quand le tremblement de terre est arrivé. Aujourd'hui, ils ont sorti 7 corps. À chaque fois, on y croit, mais ce n'est jamais elle. On va devoir vivre sans avoir récupéré son corps avec le doute.
Mais si la situation à Mandalay est difficile, la véritable tragédie se joue à quelques kilomètres de là, dans la ville secondaire de Sagaing, détruite à plus de 80%.
Nous n'avons ni eau ni électricité, c'est le plus urgent. Ensuite, nous avons besoin de financement. Il faut que l'aide arrive plus vite pour les villes et pour tous les camps de réfugiés durement touchés. Nous avons besoin d'aide, vraiment. Je vous en supplie, parlez de nous, rendez notre situation publique.
Séisme en Birmanie, un peuple entre dévastation et résilience. Un grand reportage d'Esther Lebleu que vous pourrez écouter dès ce soir à 19h40, temps universel. Il y a 30 000 ans, Paris était sous les eaux. Seul l'actuel but Montmartre ou encore la colline de Chaillot étaient des îlots de terre ferme. Et de ce fait historique, le scénariste Serge Lehmann et le dessinateur Stéphane de Canevas ont tiré un roman graphique mêlant réalisme et fantastique, intitulé « Les Navigateurs » et publié chez Delcourt. Cette bande dessinée est un jeu de pistes qui transporte les personnages principaux dans un monde parallèle administré par une société secrète. Pour cet ouvrage, Serge Lehmann a reçu en début d'année le prix Goscinny du meilleur scénariste. Il en parle à Sophie Torlotin.
Serge Lehmann, bonjour.
Bonjour.
Vous décrochez le prix Goscinny du meilleur scénariste pour Les Navigateurs avec Stéphane de Canova au dessin. C'est une histoire qui mêle une enquête policière, des recherches sur un peintre symboliste oublié et une forme de société secrète. En somme, un voyage fantastique dans un Paris fantasmé.
Oui, c'est la jonction de plusieurs choses. Un sujet très ancien chez moi qui est que, comme enfant né en banlieue, j'ai toujours trouvé que la banlieue parisienne était un peu grisaille. Je ne comprenais pas quand j'étais enfant pourquoi les histoires que je voyais se dérouler à Londres ou à New York ne pouvaient pas avoir lieu à Paris ou à Clamart ou à Montreuil. Après avoir passé quand même une dizaine d'années à faire de la littérature, des nouvelles, des romans, avoir écrit pour Enki Bilal, je suis passé à la bande dessinée. C'est un peu comme si l'usage des images me permettait de développer ce genre d'histoire. Dans le cas précis des navigateurs, l'idée est venue de la rencontre entre la carte Belgrand qu'on voit dans le livre, qui est la fameuse carte d'hydrologie qui a été faite par le chef ingénieur des égouts de Paris à la fin du 19e siècle. Il a fait des relevés dans toute l'île de France et il a vu qu'il y a 30 000 ans, le niveau de la Seine et de la Marne était à 60 mètres, il est à 27 aujourd'hui.
Donc Paris était en grande partie immergé, submergeait Montmartre, Montreuil.
Oui, Montreuil et Montmartre sont deux grandes îles. Il y a un semis de petites îles, Chaillot, etc. Puis la Marne est aussi large que l'Amazone. Donc c'est très onirique et je me suis tout de suite dit, je ferai un jour une histoire dans ce décor. Et il a fallu que je découvre plusieurs années plus tard l'œuvre d'Odilon Redon et donc de la peinture symboliste française de la fin du 19e siècle pour me rendre compte qu'il y a eu un moment quand même entre, disons, 1880 et 1910 où l'imaginaire français, justement, et celui de Paris aussi, a été peut-être plus ouvert au fantastique, à l'étrange. Quand on voit les tableaux et les peintures de cette époque, et en particulier celle de Redon, on est frappé par leur puissance et leur modernité, et l'étrangeté des créatures qu'il met en scène. Et donc là, la question de qu'est-ce qui habite ce monde de la vieille mer parisienne était réglée. C'est ces monstres-là, les créatures d'Odilon Redon. Imaginer un monde, une sorte de monde fossile comme ça, qui survivrait sans qu'on le sache, dans des peintures, des fresques murales cachées, des lettres de Jean Cocteau parlant de ça qui auraient été perdues, créer un jeu de pistes culturelles dans le vieux Paris, tout ça a été merveilleux à faire.
Donc il y a trois quadragénaires, des amis de lycée qui partent à la recherche d'une copine qui a disparu et qui trouvent effectivement une fresque cachée. Alors ce peintre, Ferdinand Krebs, il a réellement existé ou c'est une créature de votre imagination, Serge Lehmann ?
Alors, je ne peux pas mentir, donc je l'ai inventé. Je suis historien de formation, j'ai toujours des scrupules à mentir délibérément sur des choses qui ont existé. Je préfère utiliser des interstices sur lesquels on ne sait pas grand-chose pour y créer un peu de fiction qui a l'air vraie. L'histoire de Ferdinand Krebs et de Jeanne Latour qui s'enfuient tous les deux en 1890 et qui font pendant 20 ans le tour de Paris en laissant des fresques dans des maisons en construction. Ça, c'était une belle histoire.
Vous mêlez, Serge Lehmann, aussi le réalisme de Clamart, de ses banlieues et le fantastique.
Le postulat du livre est totalement incroyable au sens premier du terme, c'est-à-dire que retrouver l'ami disparu dans une fresque peinte il y a 100 ans, c'est une chose à laquelle on ne peut pas croire. Il fallait compenser ce caractère incroyable par des situations d'une extrême vraisemblance et d'une extrême familiarité.
Serge Lehmann, merci.
Le scénariste Serge Lehmann pour sa bande dessinée Les Navigateurs. Il répondait aux questions de Sophie Torlotin.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et on passe à présent au Conseil Santé avec Caroline Paré. Aujourd'hui, on parle des caries et des rages de dents avec le professeur Vianney Descroix.
Professeur Vianney Descroix, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes praticien hospitalier en odontologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quel est le lien entre une carie dentaire et une rage de dents?
Il y a un lien direct et évident. La carie dentaire, c'est la première étape avant ce qu'on appelle la rage de dents, que les dentistes appellent la pulpite. Pour avoir cette rage de dents, il faut d'abord qu'il y ait une destruction de la dent. Une partie de la dent va être détruite par la carie dentaire. Et puis si cette carie se propage encore un peu plus, elle va entraîner une inflammation à l'intérieur de la dent qui va déclencher cette douleur intense et insupportable de la rage de dents.
Au-delà de l'aspect esthétique, quel est le rôle de l'émail pour nos dents ?
Alors l'émail a un rôle absolument essentiel pour les dents, et pas seulement esthétique, mais de protection de la dent. C'est un des tissus les plus minéralisés de l'organisme qui va protéger l'organe à l'intérieur de la dent, qui est la pulpe dentaire, qui est l'organe, entre guillemets, noble de la dent, dans lequel il y a des vaisseaux, des nerfs. Et donc l'émail a vraiment un rôle de protection de l'ensemble des dents.
Qu'est-ce qu'il y a dans nos habitudes de chaque jour qui peut abîmer les dents ?
Il y a beaucoup de choses. L'alimentation, une alimentation trop sucrée, trop collante, que l'on va laisser trop longtemps en contact avec les dents, peut être une source de fragilité et de caries. Après, on a aussi des comportements qui peuvent être délétères. Par exemple, se ronger les ongles est très mauvais pour les dents. Utiliser des petits morceaux de bois pour enlever de la nourriture entre les dents peut être très dangereux aussi. Donc, il y a un certain nombre d'habitudes comme ça qui peuvent agresser les dents. Je ne parle pas des boissons trop sucrées, trop acides, qui vont aussi là entraîner des dégradations de l'émail des dents. Et qui sont autant de comportements qui peuvent véritablement être très néfastes pour la santé bucco-dentaire.
Merci professeur Descroix, vous êtes aussi le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Paris. Tout à l'heure dans Priorité Santé, on va parler du rôle de l'accompagnement psychologique et psychiatrique quand on est atteint d'une maladie chronique. Écoute, explication, soutien. Au moment où le corps peut être affaibli par un déséquilibre, une inflammation ou une infection, le rôle du psy pour le patient chronique à 9h10, temps universel.
À tout à l'heure, Caroline Paré, 6h25 à Paris, 4h25 en temps universel. Dans quelques minutes sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine. Et nous, on fait un tour dans notre playlist musicale. En attendant, on écoute le Cap-Verdien Mario Lucio, qui dans son dernier album célèbre les 50 ans de l'indépendance de son pays avec ce titre, justement, Independence. Cap-Verdien Mario Lucio et ce titre Indépendance, Independence, que vous retrouvez dans notre playlist du mois sur RFI. Dans un peu plus d'une minute sur la radio du monde, c'est le retour de l'actualité africaine. Et puis on reviendra aussi largement toute la matinée sur la mort du pape François hier à 88 ans, édition spéciale des 6 heures, temps universel. Bon réveil à notre écoute sur RFI.
RFI, la sélection du mois. Deria Yildirim et groupe Simsek.
Chérie Boulma,
Sundur.
RFI Musique. Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
Pour augmenter les budgets militaires, l'Europe repense ses priorités. Le Royaume-Uni a par exemple décidé de réduire son aide au développement, mais une partie de cette aide est consacrée à la transition climatique. Comment concilier urgence climat et urgence défense ? Le débat est ouvert.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.